Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Nous concluons cette semaine dans le département de la Côte d'Or en étant toujours à Ouges, ce village situé à 10 km au sud de Dijon, village mais qui fait partie aussi de Dijon Métropole, village rural avec encore des cultures céréalières, village résidentiel, actif aussi sur le plan des services et des entreprises. Et c'est en grande partie sur la commune d'Ouges que se trouve l'aéroport de Dijon-Bourgogne et une école de gendarmerie vient de s'installer sur le site de l'ancienne base aérienne 102. Étonnamment, sur le site de cette ancienne base se trouve un petit vignoble, oui, ce qui est assez rare en plus sur la plaine, alors qu'évidemment la Côte d'Or est réputée dans le monde entier pour ses grands vins. Et, ici, c'est un vignoble familial, dirons-nous. Il reste quelques vignes. Chaque année, on fait des vendanges et cette parcelle, c'est du chardonnay, s'appelle le Clos Guinemer, du nom du célèbre aviateur, du héros de l'aviation, qui était venu sur la base aérienne d'ailleurs en 1916, qui est mort l'année suivante. Et du reste, sur la base, on peut voir un monument qui lui est dédié. Je vous ai parlé hier du canal de Bourgogne, évidemment, qui passe à Ouges, et de la maison éclusière 62, qui abrite un petit musée de curiosités. Dans une autre maison éclusière, à l'écluse 61, une association d'artistes s'est installée il y a peu de temps pour faire vivre le lieu. Cette association s'appelle Talents sans frontières. Un atelier a été créé, atelier commun, partagé par des tailleurs sur pierre, des sculpteurs, des tailleurs sur bois, des dessinateurs, des peintres, des graphistes, avec comme but, entre autres, de proposer des expositions sur la berge du canal, notamment des sculptures monumentales. Talents sans frontières à la maison éclusière numéro 61 sur le canal de Bourgogne à Ouges. Fin de semaine en Côte d'Or pour jouer aujourd'hui avec un duo féminin, Annie Barberis et Claude Mouillet. Bonjour Annie.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes Ougeoise.
Ougeoise, oui.
Habitante d'Ouges.
Voilà, depuis plus de 35 ans maintenant.
Vous vous intéressez à la région, à l'histoire de la région. Connaissez-vous les lieux dont j'ai parlé? Je suppose que vous avez déjà vu le musée de curiosité dans cette
voilà,
maison éclusière.
Oui, et puis également la très belle ancienne église d'Ouges, où une peinture ancienne a été récemment restaurée aussi. Donc le patrimoine survit et fait mieux que survivre à Ouges.
Oui, alors vous parlez très certainement de cette église qui s'appelle l'église Saint-Pierre,
Saint-Pierre
du 13e, qui est au Petit Ouges. Il y a deux statues. C'est ça dont j'ai parlé avant-hier, et une peinture à voir aussi. Vous avez eu raison de citer cette œuvre que l'on peut voir dans cette église. Annie, vous jouez pour la première fois au jeu des 1000 euros sur France Inter?
Non, j'ai joué à Longwy il y a maintenant de nombreuses années.
Oui.
Voilà.
Longwy, juste à côté.
Juste à côté.
Claude Mouillet, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes Dijonnaise?
Je le suis.
Oui, dans le centre de Dijon, cette belle ville de Dijon?
Pas tout à fait le centre.
Oui.
J'ai la chance d'habiter près du parc de la Colombière.
Oui.
Un
très
grand
joli,
parc,
très joli lieu.
Très prisé les Dijonnais.
Oui. Ce n'est pas du côté de la future cité de la gastronomie?
Non, pas vraiment, mais ça n'est pas très loin. Dijon n'est pas une très grosse ville.
Alors, il faut peut-être en parler, ce projet de construction d'une cité.
Ah, c'est un très beau projet, mais
2020,
il faut attendre un peu encore.
2020,
hein.
Oui.
2019, si on est très optimiste, et 2020, si on est plus réaliste.
On a de l'appétit, en tous les cas, pour ce projet qui va présenter les spécialités gastronomiques. Elles sont riches et nombreuses de la région, spécialités viticoles, bien évidemment, dans un bâtiment tout nouveau. Vous aimez la cuisine, justement, vous-même?
Oui, je fais un peu de cuisine, moins qu'autrefois, parce que nous ne sommes plus que deux, donc faire de la cuisine pour deux, c'est un peu frustrant.
Claude, alors un dernier mot à propos de vous. Vous lisez beaucoup de romans policiers.
Oui.
Quel roman avez-vous lu récemment que vous pourriez nous recommander?
Eh bien, je suis en train de lire le dernier Fred Vargas, Quand sort la recluse, que je trouve très bon.
Avec toujours le fameux commissaire Adamsberg.
Toujours.
Le fameux héros de Fred
toujours
Vargas.
Toujours égal à lui-même.
Annie et Claude, bonne chance. Les questions, vous les avez tirées au sort, je vous les pose. Voici la première question bleue d'aujourd'hui, d'Héloïse Guéné à Angers. Comment appelle-t-on le sommet d'une vague?
La crête.
Oui, de concert, en chœur. La crête, c'est le sommet d'une vague. Tout simplement. Jean-Pascal Ferrier à Thouars dans les Deux-Sèvres vous demande, et c'est une autre question bleue, quel terme anglais, tiens, on reste un peu dans le domaine maritime d'ailleurs, quel terme anglais désigne une activité qui se déroule au large des côtes? Oui, terme anglo-saxon. une activité qui se déroule au large des côtes, par exemple dans l'industrie pétrolière.
Ah, offshore.
Offshore, et vous vous accordez bien.
Merci.
Les réponses vous viennent exactement en même temps. Offshore. Oui, on peut trouver des éoliennes offshore aussi. Question bleue par carte postale envoyée par Roger Lequi à Épinal. Lorsqu'on a la chance de pouvoir placer le mot bazooka au Scrabble, ça peut rapporter gros. Mais comment écrivez-vous bazooka, le nom de ce lance-roquette ? Épelez le mot bazooka.
B-A-Z-2-O-K-A.
B-A-Z-2-O-K-A, en effet. Tout simplement. Annie et Claude, une question blanche de Daniel Chollet à Agde dans l'Hérault. Quelle est l'origine de l'expression « qui dort dîne » ? C'est une expression qu'on emploie souvent, mais...
L'origine hôtelière, c'est-à-dire que quand on prenait la nuitée, il fallait aussi manger prendre le dîner, le repas du soir.
Exactement, c'est l'origine de cette expression qui est utilisée aujourd'hui, finalement avec une autre signification. Puisqu'on laisse entendre que si on va se coucher sans manger, on peut sauter un repas, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais l'origine, c'est bien ça. Quand on voulait dormir dans une auberge, on était contraint d'y dîner. Donc il y avait écrit sur la porte ou sur l'enseigne « Qui dort dîne ?» Question blanche également de Gilles Brun à La Motte en Haute-Loire. C'est une question, c'est amusant parce que hier nous avions parmi nos candidats Robin, qui est étudiant en médecine, et la question aurait pu être tirée par lui, mais elle sort aujourd'hui. Gilles Brun à La Motte en Haute-Loire vous demande quelle est la différence entre les internes et les externes en médecine. Et oui, c'est amusant parce que c'est vraiment une question qui implique un sujet dont on a parlé hier avec Robin.
L'externat a lieu, se déroule avant l'internat. L'internat, c'est les années d'études médicales après l'externat, lorsque le futur médecin arrive presque au terme de son cursus, exercer déjà, prescrire des médicaments,
dans
etc.
Dans un
hôpital ou chez un autre médecin.
C'est l'interne qui peut faire ça ?
Oui.
D'accord. Oui. On va peut-être appeler Robin, s'il est encore là, d'ailleurs, dans la salle. Bonjour, ça va bien depuis hier ?
Ça va très bien depuis hier, oui.
Est-ce que la réponse de nos candidates est satisfaisante pour vous ?
Je confirme, je suis très satisfait par cette réponse.
C'est vrai, hein ? Oui. Vous êtes interne vous-même ?
Je suis interne, en effet.
Alors, quelle serait, vous, votre réponse ? Si je vous demande précisément, là, mais nos candidates ont bien répondu, mais vous êtes un spécialiste, justement, spécialiste de médecine générale, externe, interne, la différence essentielle.
Alors, l'externe, c'est donc le deuxième cycle des études médicales. On a encore beaucoup de cours à la fac, on fait vraiment un mi-temps entre les cours et les stages, on n'a pas le droit de prescrire. On va dire que c'est surtout de l'observation, même si on fait déjà beaucoup de choses. Et interne, on a le droit de prescrire, on voit les patients tout seul. On fait une bonne partie du boulot déjà. Et ça dure 3 ans ou voire 5 ans, selon les spécialités. Et c'est des stages de 6 mois.
Heureusement, je vous avais demandé une réponse rapide, mais merci beaucoup, Robin. Merci pour ces précisions. Donc, réponse validée. Je reviens à nos candidates, bien sûr, Annie Barberis et Claude Mouillet. Question rouge maintenant, de la part d'Eliane Léger à Saint-Raphaël, dans le Var. Quelle est la particularité du film du cinéaste iranien Jafar Panahi? C'est un film qui est sorti en 2015 et qui a obtenu l'Ours d'Or au Festival de Berlin en 2015 également. Quelle est la particularité de ce film?
Tourné dans un taxi?
Il a été tourné dans un taxi car le tournage avait été interdit par les autorités iraniennes. Le réalisateur subit l'interdiction de tourner, de réaliser des films dans des conditions normales. Et donc, il a tourné dans un taxi. Le titre de ce film, c'était d'ailleurs...
Taxi.
Taxi Téhéran. Voilà, le titre en français, c'était Taxi Téhéran. Vous avez fait un joli parcours. Annie Barberis, Claude Mouillet, vous pouvez donc tenter le... Vous décidez de vous arrêter ?
En cœur, banco.
Ah, banco, toujours en cœur.
Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet.
C'est Babak Ganadian à Paris dans le 20e qui a envoyé sur franceinter.fr cette question que nous avons classée banco et pour laquelle vous n'avez droit qu'à une réponse en une minute maximum. quel est le nom de cet empereur romain qui fut également philosophe, représentant majeur de l'école stoïcienne au IIe siècle de notre ère. Philosophe stoïcien. Empereur de 161 à 180. Représentant majeur de l'école stoïcienne. Un prénom composé.
Marc Aurèle ?
Marc Aurèle ! Vous avez gagné le banco. Voulez-vous poursuivre le jeu en tentant le ? À Ouge, en Côte d'Or, non loin de Dijon, près de Longwy, quel est votre choix ?
Super.
Super. Super banco. Une question à 1000 euros. Nous nous retrouvons quand vous le voulez sur franceinter.fr, notamment pour podcaster l'émission. Et la question qui sort de l'enveloppe nous est parvenue, je le vois, par carte postale. Elle est signée Frédéric Gesslot de Gap, dans les Hautes-Alpes. Quel est le nom de cet arbre qui sécrète la résine de benjoin utilisée pour le papier d'Arménie ? Un arbre d'Asie. Quel est le nom de cet arbre qui sécrète la résine de benjoin, élément principal, composant principal du papier d'Arménie ? Annie et Claude ont discuté.
On va essayer balsaminier.
C'est le styrax.
Ah, ben non.
Également appelé l'alibouffier.
Ah, non,
alibouffier. Alibouffier. Ou styrax. Styrax, ça s'écrit S-T-Y-R-A-X, qui sécrète la résine de benjoin au parfum si reconnaissable dans le papier d'Arménie. Notre auditrice, car c'est Madame Frédéric Gesslot à Gap, recevra 45 euros, Annie Barberis et Claude Mouillet. Pour vous, le casque audio France Inter et le livre des chroniques d'Alex Vizorek, L'échappée belge. Bonne fin de semaine et à lundi, si le cœur vous en dit!